Ce podcast du OFF 2018 vous est offert par la Maïf, assureur du Festival d'Avignon.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du OFF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Soyez les bienvenus, chers auditeurs d'Osmose Radio, en cette période caniculaire. Des fois, ça fait du bien de se faire un petit peu peur, puisque ça nous donne des sueurs froides, ça nous fait un petit peu froid dans le dos, et c'est pas du luxe par ces températures. Et c'est justement l'objet un petit peu du spectacle dont on va parler aujourd'hui avec cette pièce qui se joue au théâtre L'Arrache-Cœur. Je vous jure que c'est vrai, chers amis, je l'aurais pas inventé moi-même. Rien que le nom déjà du théâtre, c'est un petit peu gore, un petit peu effrayant. Et le spectacle dont on va parler aujourd'hui est à l'Avenant 59 avec la compagnie Les Enfants Terribles. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, vous êtes un trio et sur scène et dans ce studio avec le metteur en scène Vincent Messager, accompagné de vos deux collègues Muriel Santini et Morgane Touzalin Macablo. Voilà, vous êtes tous les trois sur scène dans des costumes, des toilettes qui nous rappellent un petit peu le début du XXe siècle ou les années 50 et des maquillages qui, en plus, associés aux lumières, nous rappellent un petit peu les goules qui traînent dans les cimetières, en tout cas dans nos cauchemars d'enfants. Mais là, aujourd'hui, sur ce plateau, vous êtes tout aussi élégante que quand je vous ai vu hier soir, mais quand même largement moins effrayante. Et je m'envoie un tantinet rassuré, je ne vous le cache pas. Quoi qu'il en soit, on va un petit peu parler du spectacle qui vous amène au Festival OFF 2018 à Avignon, que vous jouez à 20h25 tous les soirs jusqu'au 29 juillet au théâtre L'Arrache-Cœur, c'est juste à côté de la porte Limbert. Et quels ont été les retours du public que vous avez eu jusqu'à présent pour ce spectacle qui, pardonnez-moi, est tout de même tout à fait macabre?
Pour le moment, les retours du public ils sont très, très, très satisfaisants pour une première année à Avignon, parce que c'est quand même un genre très particulier. Les gens, en fait, quand ils voient l'affiche, ne savent pas trop à quoi s'attendre, surtout quelque chose qui fait peur. Mais en venant nous voir, ils découvrent que c'est aussi très drôle, qu'on respire beaucoup. Ils ne s'attendent vraiment pas à ça. À chaque fois qu'on les rencontre dans les rues, ils sont heureux, ils nous interpellent, ils disent vraiment on n'a pas l'habitude de voir ça à Avignon. Et bon, c'est ce qui est très plaisant pour nous et ce qui nous donne envie de la jouer encore plus et de la partager avec encore plus de monde d'ailleurs. Donc voilà, non, très satisfaisant, je crois.
Je veux bien croire que quand vous tractez dans les rues de la bien belle cité d'Avignon, il y a un contraste entre votre apparence à vous et l'apparence le visuel de votre spectacle, qui est quand même tout à fait impressionnant, mais on aura l'occasion d'y revenir. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que vous disiez à l'instant, ce n'est pas tout à fait votre première venue au Festival d'Avignon avec la compagnie Les Enfants Terribles. Vous avez présenté des spectacles tout à fait différents les années précédentes.
Oui, tout à fait. Du théâtre de boulevard, de la comédie libertine. Oui, c'est le propre de la compagnie, on veut s'ouvrir à tous les styles.
Et donc pour vous, c'est une première expérience dans ce genre théâtral un peu qui rappelle un petit peu le théâtre de Grand Guignol à certains égards.
Oui, sauf que nous, c'est quand même beaucoup moins sanglant.
C'est vous qui le dites. Moi, j'ai vu du sang jaillir. Je ne dis pas qu'il y avait de la sauce tomate sur scène. Je dis que moi, j'ai vu du sang jaillir. Mais c'est le pouvoir de la suggestion. C'est la magie du théâtre. Là aussi, on y reviendra. Et donc, tous les trois, vous incarnez différents personnages dans ce spectacle qui prend pour cadre un lieu qui déjà est un petit peu prédestiné, Commenterie la Rouge. Alors moi, en entendant le nom de ce petit bled, qui existe réellement d'ailleurs, j'ai pensé à l'Auberge Rouge. D'autant plus que vous situez votre intérêt dans le passé, enfin un passé relativement récent, le début du XXe siècle, voilà, les années 50. J'ai pensé à ce fait divers du XIXe siècle qui avait défrayé la chronique par rapport à cette auberge où il y aurait eu des tas de meurtres sanglants et tous plus abominables les uns que les autres, et en plus dans un contexte politique un petit peu troublé, tout ça. Et on l'a appelé l'Auberge Rouge et c'est resté dans les mémoires, la mémoire en tout cas rurale française, puisque ça prenait pour cadre une petite auberge perdue au fin fond de la Cambrousse. Et en fait, il n'y a pas forcément de lien avec ça. Peut-être que ça a influencé l'auteur, Christian Séméon, indirectement. Mais Commenterie la Rouge, si elle s'appelle Commenterie la Rouge, c'est pour une raison bien particulière, en fait.
Oui, c'est plus politique que sanglant, en réalité, puisque Commenterie était la première ville au monde à avoir élu un maire socialiste. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Commenterie la Rouge. On ne pouvait pas utiliser Commenterie parce que la ville existe vraiment, et qu'on ne pouvait pas non plus les cibler à ce point-là, vu la cruauté de ce qui s'y passe, donc leur donner une mauvaise image. Donc l'auteur a souhaité mettre Commenterie la Rouge. C'est vrai que c'est ambigu, mais tant mieux d'ailleurs.
Et vous-même, comme vous êtes originaire du Pays Basque, de Perpignan, de ces contrées-là, où effectivement on a des villes de bord de mer, et à quelques kilomètres, on a des petits villages de montagne. Et donc, j'imagine que vous-même, chacun de votre côté, vous avez un petit peu, sinon l'imaginaire, du moins quelques expériences de cette dichotomie-là, qui existe bel et bien en France, parce qu'on a un pays où la majeure partie de la population est urbaine, justement depuis le début du XXe siècle, et c'était déjà le cas dans les années 50. Mais on reste quand même un pays rural avec des vieilles légendes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, et aussi tout simplement des faits divers qui s'inscrivent dans cette France un petit peu trouble, où on peut trouver de la matière à polar, mais pas forcément dans un milieu urbain, dans un milieu rural. Et c'est le cas de cette intrigue que vous situez à Commentry-la-Rouge, et il est beaucoup question de nourriture. Et si, alors Commentry-la-Rouge au niveau politique, ce serait plutôt pourpre, et vous avez fait en sorte qu'au niveau couleur, ça évoque plutôt le carmin et le purpurin du sang, hein, dont il va être question un petit peu associé à la bouffe, hein, disons-le tout net, dont il va être question dans le spectacle. Et de la même manière qu'un repas est organisé en trois actes, j'ai envie de dire, entrée, plat, dessert, vous avez fait en sorte que peu ou prou, ce soit la même chose pour le spectacle.
Oui, absolument. Absolument, puisqu'on commence en parlant de l'UNESCO, qui a inscrit le repas gastronomique à la française en trois temps. Mmh. Et l'auteur est parti de ce postulat-là, puisqu'il y a trois comptes, et il a mis entrée, plat, dessert. Effectivement, ils n'ont pas mis l'apéritif, mais comme il y a une quatrième histoire qui lie les trois histoires, c'est ce qu'on a appelé l'apéritif.
D'accord. C'est un petit peu comme les trois mousquetaires. Hein. Ils sont trois, mais il y en a toujours un supplémentaire.
Oui, c'est ça.
Bien joué. Donc, la petite référence qui va bien. Et alors, pour ma part, en tant que spectateur, j'ai apprécié certaines astuces de mise en scène qui sont tout à fait assez courantes. Hein. L'utilisation de la vidéo, des effets spéciaux modestes, mais qui, sur une scène de théâtre, font toujours un effet bœuf. On parlait de bouffe, bœuf, justement. Bah, tiens, on n'abat pas une bestiole sur scène, rassurez-vous. Encore que, moi, puisque je vous dis que j'ai vu du sang giclé, même s'il n'y en avait pas forcément, le pouvoir de la suggestion marche encore, et on commence en fait dès le début du spectacle avec une scène qui se joue autour d'un cercueil. Voilà, déjà le cadre est posé.
Ouais.
Et alors vous, toutes les deux, Muriel et Morgane, vous incarnez des personnages, vous incarnez différents personnages sur scène, une femme au foyer, une mangeuse d'hommes, une ancienne diva, une bigote, et je ne vais pas toutes les décrire, et des sales gosses aussi, etc. etc. Finalement, on dit que tous les acteurs ont un petit peu un côté schizophrène, mais en ce qui vous concerne, vous avez une dizaine de personnalités, non finalement?
Oui, puisque nous sommes trois comédiens et 15 personnages environ.
D'accord.
Donc il faut passer, il faut naviguer d'un à l'autre. Et bah, c'est très riche. Très riche pour le spectateur et très riche pour nous. Très enrichissant en tous les cas.
Et très amusant aussi.
Oui. Donc, on s'amuse beaucoup, nous.
Et votre psy aussi, puisque j'imagine. je vous taquine évidemment. Alors pour ce qui est des références que moi j'ai pu ressentir dans le public, j'ai tout de suite pensé, et en échangeant avec d'autres spectateurs à l'issue du spectacle, je me suis aperçu qu'on a eu les mêmes impressions. En fait, on pense tout de suite, pour ce qui est de votre apparence un petit peu macabre, hein, à gentiment zombie en quelque sorte, on pense tout de suite à la famille Addams. D'ailleurs, vous êtes gracieuse et belle, mesdames, comme Morticia, qui était jouée par Angelica Houston dans le fameux film dans les années 90. On pense aussi au Comte de la Crypte par rapport à la construction de l'intrigue. Je vous donne tout ça en vrai, qu'on va approfondir un peu. On pense à Alfred Hitchcock dans cette fameuse série télé des années 50, justement, Alfred Hitchcock présente. Et moi, à titre personnel, par rapport à ce décalage entre des histoires qui ont lieu, qui ont pour cadre un environnement d'une petite commune rurale, et en même temps ces effets spéciaux et cet environnement qui rappelle le théâtre de Grand Guignol. Alors il n'y a aucun terme péjoratif dans ce que je dis, hein, c'est le théâtre de Grand Guignol tel qu'il existait au début du XXe siècle et qui a posé un petit peu les cadres de ce qui peut être macabre quand on le joue au théâtre, avec des effets spéciaux simples mais très très efficaces, hein, des crânes, des cercueils, etc., que vous utilisez peu ou prou. À l'époque, on n'avait pas encore de projection, fin 19e siècle. Et donc, moi, j'ai eu l'impression, pardonnez-moi, hein, que c'était un petit peu parfois les des chiens qui s'étaient égarés dans le théâtre de Grand Guignol.
Oui, ça peut peut-être donner cette impression, oui.
Non, avec trois jeunes qui n'en veulent, justement.
Non, oui, l'idée de départ, ce que j'ai voulu faire, c'était vraiment travailler comme du Alfred Hitchcock. Ça, c'est le point de départ, c'est-à-dire très classe, tout en noir et blanc, et beaucoup de suggestions. pas montrer les choses telles qu'elles sont, bien que dès le départ, en fait, le spectateur a absolument tout devant lui. Tout le dénouement est devant lui, il a absolument tous les éléments, mais il ne s'en rend pas compte. Il s'en rend compte après coup. Il se dit « Ah bah oui, bien sûr ». Après, j'ai voulu mettre quelque chose de plus drôle, parce que je voulais de l'humour, donc j'ai mis la couche des Contes de la Crypte. Donc c'est là où on retrouve Albert qui est sur l'affiche, avec ce côté présentateur. Présentateur des Contes de la Crypte, mais également de Alfred Hitchcock présente, puisqu'il avait lui-même présenté ses propres séries.
Il jouait lui-même son propre personnage,
oui,
à l'écran.
Ouais. Et ensuite, alors vous parlez de la famille Adams, mais ce n'est pas vraiment ce qui m'a inspiré, mais c'est plutôt Tim Burton, d'où le maquillage et le côté décalé. Voilà.
Et la référence aux enfants aussi, puisqu'à un moment, il y a des enfants qui racontent la réalité, mais de leur point de vue. Et là, vous prenez... Alors là, il y a au niveau du jeu d'acteur, il y a quelque chose d'un petit peu insolite. C'est-à-dire qu'on a peu ou prou l'impression que vous avez des corps de marionnettes. C'est-à-dire que vous passez derrière un écran, on ne voit que vos visages qui dépassent et des petits corps tout fins qui sont dessinés sur des panneaux. Et du coup, vous prenez des voix aussi un peu plus suraiguës. Et en ce sens, ouais, vous êtes un petit peu un spectacle de pantomime. On vous voit un petit peu, entre guillemets, en stéréo, à savoir qu'il y en a une à gauche, une à droite, alors qu'on vous a vu au centre de la scène pendant les minutes qui précédaient. Et là, on est un petit peu décontenancé, parce que ça va très vite. Vous renvoyez les belles très vite, comme du stand-up. Et en fait, comment vous avez mis en place ce travail-là, toutes les deux? Parce qu'il s'agit quand même de se renvoyer la balle.
Oh ben ça s'est fait naturellement.
Oui.
Très, très rapidement. L'idée, ça venait encore de Vincent. Hein. Enfin, toutes les idées géniales qu'il a pu avoir.
Voilà, oh là là, vous êtes sûr de revenir l'année prochaine.
C'est de gagner des points comme chez les petites nouvelles.
Et puis notre costumier a fait un très très gros travail. Mm. Les poupées, les costumes. Mm. Donc ça amène quand même une esthétique et une cohérence dans le spectacle. Et là, on s'est amusé comme deux gamines sur cette scène.
Oui. Et puis c'est comme un petit cadeau encore qu'on offre, mais et surtout le début, hein, ce que vous avez très bien dit, hein, on n'arrête pas de surprendre le spectateur, et vraiment au début c'est sur un rythme effréné, on lui envoie tout plein de codes, tout plein de cadeaux, tout plein de surprises. Enfin, bon, les surprises, elles continuent jusqu'à la fin de la pièce, évidemment.
Ah, mais on ne va pas tout dire.
C'est aussi des informations et des explications sur ce qui va venir. Parce que, bon, vous parlez des poupées, mais ce sont des petites filles qu'on retrouve adultes quelques instants plus tard. C'est aussi pour ça qu'on les voit.
Et vous récupérez vos corps entre temps, bien entendu.
Oui, voilà. C'est la magie du spectacle.
Et voilà, et donc on parle de la présence sur scène des acteurs, ce jeu du corps. Et en fait, le corps, vous l'avez mis à contribution en faisant quelques pas de danse aussi. C'est quelque chose que vous pratiquez à l'extérieur de votre carrière de comédienne ou vous vous y êtes mis parce que Vincent vous a demandé d'apprendre un petit peu la rumba?
Non, moi j'ai une formation de danse à la base. Avant le théâtre, je faisais de la danse.
Même. D'accord.
Donc. C'est aussi ma signature, c'est-à-dire que dans toutes mes mises en scène, il y a forcément une danse.
Ah, d'accord. Oui.
Voilà.
Ok, bah j'aurais dû m'enseigner sur les spectacles précédents avant de creuser un peu avant celui-là. Et c'est vrai que là aussi, il y a ce contraste entre l'histoire macabre, l'environnement assez sombre et inquiétant, et puis ces petits airs de rumba tout mignons, etc.
Oui, parce que ce n'est pas pour mettre de la danse, pour le plaisir de mettre de la danse. C'est vraiment ça apporte quelque chose au niveau de la mise en scène, au niveau du jeu, pour nous, pour faire la bascule dans l'horreur.
Voilà,
de belles surprises.
Voilà, pour amener un petit peu la tension. Et donc, en fait, s'il n'y a pas réellement de suspense, alors même que vous revendiquez l'influence d'Hitchcock, puisqu'on sait que le pire va arriver, mais on ne sait pas comment il va arriver. C'est là que se situe finalement ce qui nous tient en haleine tout au long du spectacle. Donc là, on ne peut pas trop en dire. On a grosso modo donné le cadre de la pièce, c'est-à-dire trois, quatre contes qui s'articulent autour d'une intrigue sous-jacente par rapport à Commenterie la Rouge. On n'en dira pas beaucoup plus pour réserver le mystère, évidemment, aux auditeurs qui seraient curieux de votre spectacle. Mais par contre, je tiens à préciser quand même quelque chose. Le visuel est tout à fait impressionnant. À titre personnel, je me demande s'il est réellement approprié. Ça n'engage que moi. Parce que, en fait, si le visuel est particulièrement macabre et inquiétant, et voire même peut effrayer peut-être les enfants ou les plus jeunes d'entre nous, finalement, sur scène, c'est tout à fait différent. Donc, que les gens ne se laissent pas impressionner par le visuel, peut-être. C'est la réserve que j'apporterai quand même à votre projet théâtral.
Oui, vous avez raison. Sur le visuel, il manque la touche de fantaisie du spectacle. Mmh. C'est vrai. bon, c'est une création, on lance le projet, et c'est les retours qu'on a eus et on réfléchit à modifier l'affiche, effectivement.
Ouais. Mais il ne s'agit pas de la qualité du visuel, parce que l'illustration, j'ai l'impression que c'est une illustration, et de bonne qualité, alors, mais
Albert
simplement le cadre.
Voilà. Vraiment, c'est une sculpture de Christian Siméon, qui est sculpteur aussi, qui est également sculpteur.
Ouais. Ah ben là, vous me faites la transition tout de suite, parce que je me suis dit qu'on allait quand même parler de cet homme-là, qui est l'auteur des contes en question, mais finalement, ce n'est pas lui qui est réellement à l'origine de ce projet, c'est plutôt vous qui l'avez incité à compiler certains textes antérieurs. Voilà.
Oui. Bon, on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble avec Christian. Et on en a parlé tout à l'heure, effectivement, on travaille sur plusieurs styles. J'avais envie de partir sur un nouveau style. Et donc, je lui ai demandé ce qu'il avait à me proposer. Donc, il m'a envoyé tout un tas de textes que j'ai lus. Et c'est un des contes qui m'a particulièrement plu. Et sauf que j'ai vu dans ce conte un côté sombre que lui n'avait pas du tout écrit. Puisqu'il s'agit de la dernière histoire avec les enfants, j'en dirai pas plus. Mais le côté cruel de l'affaire, lui ne l'avait pas vu. Et moi, c'est ce que j'ai vu immédiatement. Ça l'a interpellé, il a adoré mon idée et il a dit on y va. Et il m'a proposé d'autres histoires où je pouvais tirer un côté très sombre.
D'accord, comme quoi on a toujours besoin d'un second point de vue pour faire une synthèse un petit peu de son propre travail.
Un texte, ce sont des mots, hein, donc après on leur fait dire ce qu'on veut bien leur faire dire. Quoi.
Voilà, il y a la définition du petit Larousse et toutes les implications qu'il y a derrière. Une zone de trouble en fait que vous exploitez notamment dans ce spectacle. 59, alors 59, il y a une référence, je disais la bouffe est un sujet très présent, il est même cité à l'introduction du spectacle. La cuisine dans laquelle on peut utiliser les effluents corporels, notamment le sang pour faire des sauces par exemple, et dont on fait de la charcuterie notamment, et bien justement par rapport à cette référence à la charcuterie, moi j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une autre influence à laquelle vous n'avez pas forcément pensé, je sais pas, le film de Caro et Jeunet sorti dans les années 90, Délicatessen, qui se passait lui aussi dans une ambiance d'années 50 et dans une boucherie où il se passait des choses pas très catholiques.
Oui, non, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça.
Et de ma part, c'est un compliment, soyez-en sûr.
Merci.
Et donc, une ambiance qui nous ramène un petit peu dans cette ambiance passéiste, mais avec des thèmes qui, eux, sont intemporels, parce que, comme disait Coluche, l'horreur est humaine. Hein. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans votre spectacle, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la famille Adams, mais la famille Adams, c'est un petit peu c'est un petit peu ce côté fantasy, mais de gens qu'on ne croisera jamais dans la vraie vie du monde réel. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime beaucoup, c'est pas la question. Mais ce qu'il y a d'horrible aussi dans votre spectacle, c'est que c'est des gens qu'on peut croiser au coin de la rue. La vieille bigote qui finit par commettre un meurtre alors qu'elle est toujours en train de mater les fesses du petit Jésus. Les deux anciennes copines qui finissent par par se détester cordialement, et j'en passe. Et donc, tout ça, c'est des situations qui rappellent un petit peu le fantastique, en fait, qui est présent, notamment dans les contes de la crypte. C'est-à-dire qu'on parle de situations banales, d'une grande banalité, et qui, par un petit détail un petit peu surnaturel, finissent par devenir fantastiques, ou même carrément sordides et macabres, macabres en l'occurrence, dans les contes en question. Mais le sordide, lui, existe au quotidien. Il suffit d'ouvrir cette fameuse revue populiste, Détective, par exemple, qui a eu beaucoup de succès, notamment dans les années 50. Décidément, on n'en sort pas.
Mais on est, oui, c'est la nature humaine. Hein. Elle est drôle et elle est cruelle. C'est la nature humaine.
Et c'est un peu aussi le fil, un des fils rouges du projet. On parle de la bêtise humaine, vraiment, véritablement, et qui est déclenchée par une certaine chose. Mais voilà, on est en plein dedans aussi.
Oui, parce qu'il y a une inspiration aussi par rapport, par exemple, au roman de Jean Tellet, Mangez-le si vous voulez, donc un fait historique dans un moment bien particulier au niveau politique qui fait que ça enclenche toute une histoire qui va devenir sordide, bêtement. L'effet de foule.
Le fil rouge, décidément, vous ne tenez pas à sortir de cette couleur. Hein, entre votre rouge à lèvres carmin, entre vos toilettes pourpres et donc entre l'aspect purpurin de certaines scènes du spectacle. Je vous répète, moi j'ai vu du sang jaillir Pourtant, vous me dites qu'il n'y a pas eu d'effets spéciaux en ce sens-là. Je vais faire une enquête, ça m'agace. Ça. Quoi qu'il en soit, j'invite les gens à aller constater par eux-mêmes au théâtre L'Arrache-Cœur. Votre spectacle 59, c'est une création pour l'OFF, en fait. C'est, vous travaillez dessus depuis un petit peu moins d'un an, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bon, écoutez, eh bien donc à 20h25, tous les soirs jusqu'au 29 juillet, au théâtre L'Arrache-Cœur, le seul théâtre avignonnais construit au-dessus d'un cimetière indien. Et je vous laisse comprendre pourquoi quand vous irez voir le spectacle. En tout cas, merci à tous, la compagnie des Enfants Terribles, les trois Enfants Terribles qui étaient avec moi dans le studio aujourd'hui et qui sont sur scène au théâtre L'Arrache-Cœur. Muriel Santini, Morgane Touzalin Macabo, et enfin Vincent Messager qui est aussi le metteur en scène sur un texte de Christian Siméon. Et comme vous revendiquez cette influence d'Hitchcock, je vous propose de conclure cette interview par quelques notes de musique, les notes en l'occurrence la musique de Charles Gounod qu'il utilisait dans sa fameuse série.